Il est temps de retrouver notre invitée Monique Étienne, qui est déjà venue plusieurs fois sur notre antenne. Monique Étienne, journaliste militante depuis de nombreuses années, qui a publié le journal d'Anna, ma mère. Monique Étienne.
Une biographie. C'était vraiment sur la vie de ma mère et mes réactions par rapport à cette femme.
Voilà.
À partir des extraits de ses journaux, puisque c'est une femme qui a toujours écrit sur sa vie, quoi.
Et aujourd'hui, donc, Chute la vie, un livre sur les années 68, c'est un peu aussi votre histoire.
Ça s'inspire de mon histoire, bien évidemment, en même temps, c'est romancé.
Voilà, sur ces besoins de liberté et ces premiers grands moments de bouleversement que vous avez traversés, et évidemment l'époque du sida qui est un peu au cœur de cette histoire.
Oui, c'est le rythme du roman, en fait.
Voilà,
la maladie,
voilà.
Le déclenchement de la maladie jusqu'à la mort, mais avec tout ce qui se révèle en fait du passé, de ce qui a uni les gens qui sont dans ce groupe qui accompagne ce malade du sida, et en même temps tout ce que l'on découvre à partir de là de fraternité, de compassion et d'une expérience unique qui est ce partage en fait. Qui peut paraître sinistre, mais qui en fait ne l'est pas, d'une fin de vie, avec quelqu'un qui est lucide sur la fin de sa vie, puisqu'à l'époque, c'était au moment où le sida voulait dire arrêt de mort. C'était avant la découverte des trithérapies.
C'était aussi considéré comme la maladie honteuse et un peu la punition suprême.
C'est tout à fait ça. C'était vraiment presque un bannissement, d'une certaine façon. D'autant que le héros du livre est homosexuel dans un milieu rural. Dans les années donc 80-90, ça voulait dire que c'était impossible de pouvoir faire son coming out, comme on dit maintenant. Et donc, il le vivait à la fois dans la culpabilité et en même temps dans l'affirmation. C'était une époque, après 68, où justement, on voulait affirmer la liberté de ses désirs et de ses vies. Et donc, c'est un peu cette histoire d'un homosexuel en milieu rural qui va s'émanciper en montant à Paris et en même temps qui est mal parce que il a besoin de vivre aussi dans la ruralité, et c'est ce déchirement de sa vie qui va se terminer malheureusement par le sida et sa mort. Mais en même temps, il y a toute la vie collective puisqu'il vit en communauté avec un groupe d'amis, dont Gabrielle, qui est l'autre, disons, héroïne du livre, c'est-à-dire cette espèce d'amitié, de sororité, fraternité, on ne sait pas comment le dire, mais entre un homosexuel et une femme qui est féministe, et tout ce qui a pu les unir, et aussi les séparer à un moment, pour se retrouver au moment de l'accompagnement de cette mort annoncée.
Donc un livre d'amour, d'amitié et de fraternité, c'est important cet accompagnement, accompagnement du malade en général, on va dire, pas que du sida, quoi.
Oui, parce que ce qu'on a découvert avec le... C'est-à-dire ce qui était quand même particulier, je crois, et qui a vraiment frappé notre génération, parce que bon, les gens qui, comme moi, ont lutté pour l'émancipation, on a vécu des moments absolument extraordinaires après 68... où on a découvert à la fois la possibilité de vivre autrement, d'émanciper nos désirs, de les affirmer. Ça a été la découverte pour moi du féminisme. Pour justement les homosexuels, ça a été l'affirmation de ce qu'ils étaient, ce qu'on n'appelait pas à ce moment-là des gay pride, mais qui étaient des manifestations où ils exigeaient la reconnaissance donc de l'homosexualité. Et rappelons qu'à l'époque, il y avait encore des lois pénales contre l'homosexualité. Et c'était très joyeux. C'était pas du tout ni violent, ni c'était drôle, et on avait vraiment l'impression qu'on avançait à grands pas vers un autre monde et l'émancipation des désirs et enfin vivre comme on voulait vivre. Et puis d'un coup, il y a cette espèce de choc de cette maladie qui frappe quand même à ce moment-là majoritairement les homosexuels dans nos pays à nous développés. Et cette interrogation, pourquoi cela à ce moment-là? C'est-à-dire que quelque part, malgré tout, avec toute l'éducation judéo-chrétienne que nous avions pratiquement tous, hein, puisque Roland dans le livre a été éduqué dans la foi chrétienne, Gabriel aussi, etc., on s'interroge sur qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi est-ce que on est frappé justement à ce moment-là sur les questions de la sexualité, etc. Donc je crois que c'était une grande douleur, une grande... vraiment une impression d'injustice et en même temps, eh bien, une réaction. Et je crois que ce qu'a apporté aussi la lutte contre le sida, enfin, l'accompagnement, cet accompagnement du sida, c'était l'envie aussi de s'emparer de cette maladie. Je crois que ça a été très bien montré d'ailleurs dans les films qui parlent d'Act Up, etc. C'est-à-dire que Roland, par exemple, voulait tout savoir sur sa maladie et quand il a été hospitalisé, il n'acceptait pas le pouvoir médical qui s'abattait régulièrement sur les malades, qui devenaient presque des clients, comme on dit, mais plus des patients, patients, comme on dit. Et donc, et puis comme le pouvoir médical était quand même un peu interrogatif, il ne connaissait pas du tout l'histoire de cette maladie et quels en étaient les ressortissants et les aboutissants. Du coup, les malades sont devenus des partenaires d'une certaine façon. Et ça a été très important aussi dans l'évolution du système médical, je crois. Donc c'était la première fois qu'en fait, les patients ne devenaient pas patients, mais actifs dans leur maladie. Ce qui n'empêchait pas effectivement l'aboutissement final à l'époque, qui était la mort. Et la mort, c'était la mort dans des conditions quand même terribles, puisque le corps ne pouvait plus se défendre, puisqu'on mourait pas du sida, mais on mourait des maladies dites opportunistes qui s'emparaient du corps et contre lesquelles l'organisme ne pouvait plus lutter. Donc il mourait avec une maigreur terrible, des maladies extrêmement handicapantes. Donc c'était quelque chose de pas facile à vivre. Mais en même temps, on a vécu cela jusqu'au bout, dans l'accompagnement. Et ceux qui sont restés, malheureusement, c'est pas ceux qui sont morts, mais ceux qui sont restés, on a, je crois, vécu une expérience de vie unique qui nous a aussi porté pour le futur, je crois, pour appréhender aussi ce qu'est la vie, ce qu'est la mort, ce qu'est la vieillesse ou la maladie. Mmh. Et la compassion et toute la fraternité qu'on a vécu autour de cette maladie. Le livre n'est pas sinistre.
Oui. Vous en parlez pas spécialement dans ce livre, mais tout ce qu'il y avait autour des malades du sida, il y avait quand même, comme si c'était des pestiférés, beaucoup de peur de la part de ses amis dans le livre, mais c'était une sacrée exclusion pour...
Tout à fait, oui. Oui, c'est-à-dire que les gens avaient peur. C'était stigmatisé parce que c'était annoncé comme maladie justement de mauvaise vie, puisque c'était quand même principalement, on stigmatisait à ce moment-là l'homosexualité. Hein. Il y avait un isolement, effectivement. Et puis une honte à dire, ne pas dire surtout, ne pas dire. Et hier, c'était la journée d'ailleurs par rapport au sida. J'entendais un interview d'un autre romancier qui a sorti un livre justement qui parle de ça. C'est vrai, fallait surtout pas le dire. Et ce que je montre aussi dans le livre, c'est justement ce portrait de la mère de Roland, parce que c'est une femme d'un milieu rural, d'un milieu très, très fermé, et comment cette femme extraordinaire a accompagné son fils jusqu'au bout, malgré sa morale très chrétienne. Et je crois qu'il y a aussi ce portrait de mère de cette femme vraiment attentive et magnifique, quoi. Parce qu'il y avait tout ça aussi. Il y avait des gens qui se révélaient, qui au début avait peur et puis qui, en accompagnant le malade, me découvrait aussi autre chose et acceptait finalement de s'ouvrir. Après, il y a eu des rejets. Il y a eu beaucoup de rejets. Moi, je connaissais des amis dont les familles ont été... Ils les ont rejetés. Ils sont morts dans la solitude. Et j'ai eu aussi beaucoup d'amis qui sont morts à cette période-là. Mmh. Donc, c'était quelque chose de difficile, effectivement.
Donc ce livre, c'est un peu un hommage pour ces personnes.
Oui, alors j'avais écrit un premier jet il y a longtemps, quand je suis arrivée à Digne. Je suis arrivée en 92, juste après la mort donc de cet ami qu'on avait accompagné. C'est pas exactement le héros du livre, mais c'était... J'ai effectivement, avec Christian aussi d'ailleurs, nous avons vécu cette période. Et en arrivant, j'avais besoin d'écrire et d'en parler, donc j'avais écrit un premier jet, puis j'avais laissé reposer, je l'avais laissé tomber. Et puis, il y a eu le confinement avec le Covid. Et je sais pas, cette période de repliement, de confinement, où on parlait de la maladie, m'a rappelé, enfin, a réveillé en moi toute cette histoire du sida, de l'accompagnement des malades jusqu'à leur mort. Et du coup, ça m'a redonné envie de retravailler le manuscrit. Donc, j'ai totalement repris. J'ai senti à ce moment-là la nécessité de reparler cette histoire. Parce que ça a réveillé plein de souvenirs. Et voilà. Et puis en plus, vieillissante, n'est-ce pas? J'ai quand même 72 ans. Je sais pas, j'avais envie aussi de reparler de 68, de ce que ça représentait, parce que souvent on entend des choses, les gens ont la mémoire courte ou l'histoire, enfin, si on ne replace pas les choses dans leur contexte historique, on oublie. Et je pense que c'était important de reparler de cette période où on avait aussi envie de changer la vie dans tous ses aspects, y compris sur les questions de l'écologie. On était d'une certaine façon, après 68, des précurseurs, puisque je me souviens, avec René Dumont, enfin, au PSU, on posait déjà toutes ces questions-là. Les premières luttes antinucléaires, les rassemblements du Larzac, tous ces moments festifs et en même temps de lutte collective. Et je trouve que c'est important de rappeler cela dans cette période où on a tendance à nous renvoyer à l'individualisme, au chacun pour soi, et où on ne voit plus très bien aujourd'hui les issues. Et je crois que c'est important de rappeler ces luttes et que la vie continue et qu'il faut lutter, qu'il faut continuer à vouloir effectivement espérer un autre monde d'une certaine façon.
C'est vrai que quand on entend les personnes parler des vieux 68ards, enfin c'est plutôt avec des notes pas très positives. Hein, quand on parle des 68ards, c'est rarement...
C'est presque péjoratif.
Voilà, c'est ça.
Et je voulais aussi rappeler le féminisme parce qu'aujourd'hui, bon alors, il se trouve qu'avec MeToo, donc on reparle du féminisme, mais rappelons-nous qu'avant, presque c'était un gros mot de se dire féministe. Et donc, alors que ça a été véritablement une période aussi enthousiasmante pour, alors là, je parle pour moi, en tant que femme, on a vécu des choses extraordinaires à ce moment-là. Et les luttes, on parle de l'avortement, hein, malheureusement dans le monde en ce moment, on a vu aux États-Unis comment les régressions peuvent vite arriver, hein, ou en Pologne, ou dans d'autres pays, en Amérique latine et ailleurs. Ce qu'ont été effectivement les luttes pour l'avortement, c'était vraiment très important. Et ça rejoint aussi mon premier livre, puisque l'histoire de ma mère, c'est aussi l'histoire d'une femme qui cherche à s'émanciper, mais qui, comme beaucoup de nos mères à nous, ma génération, ont eu leur vie sexuelle foutue en l'air par la peur de tomber enceinte, et parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen, ou soit effectivement l'avortement clandestin où les femmes en mouraient, soit effectivement pas de sexualité.
À l'époque,
les méthodes Ogino, oui. Bon, mon frère est un bébé Ogino, enfin, il y a plein. Bon.
Oui.
Donc, les vies des femmes étaient sacrifiées, où elles mettaient leur vie en danger, énormément en danger, en se faisant avorter dans des conditions absolument déplorables. Donc, le choix de sa maternité avec la contraception, bon, on est de la génération pilule, qui est aujourd'hui très décriée, mais qui a été quand même une formidable émancipation pour notre génération, de pouvoir choisir ses maternités, de pouvoir choisir sa vie sexuelle, c'est fondamental.
On a l'impression que malgré tous ces combats, il faut continuer parce que un rien pourrait tout refaire.
Rien n'est
tout
jamais
refaire.
Acquis, hein.
Voilà,
comme
c'est ça.
Les poètes. Non, c'est vrai. Malheureusement, nous, on pense des choses acquises, des choses, et on se rend compte que c'est pas vrai. Effectivement, la génération 68 a aussi des responsabilités. Hein. Il y a eu des excès, j'en le montre aussi dans le livre.
Il y a eu des excès.
C'est-à-dire
pense
que comme toute libération, c'est un peu la balance, ça penche d'un côté,
les
après
il faut
rééquilibrer.
Les gens qui se sont perdus, voilà, de
il y a
trop
de
liberté.
Malheureusement, enfin, il y a eu effectivement, j'essaie de le montrer dans le livre aussi, c'est-à-dire qu'on allait dans l'excessif. Tout remettre en question, la famille, l'autorité, etc. Bon, c'est effectivement quelque chose qui était peut-être nécessaire à notre époque, parce qu'il faut se remettre aussi dans le contexte. Hein. Moi, j'ai connu quand même l'époque où on ne pouvait pas se mettre en pantalon au lycée. Il fallait...
Ah oui,
tout cela. Bon, c'était pas mixte. Par rapport à la sexualité, ben c'était le tabou. Il y avait quand même beaucoup de choses qui nécessitaient le pouvoir aussi, un pouvoir extrêmement autoritaire et où la jeunesse pouvait pas s'exprimer. Bon, je crois qu'il y a eu toute cette nécessité de se révolter, comme on disait. On a raison de se révolter en 68. Mais après, il fallait retrouver un équilibre. C'est normal aussi. Mmh. Et puis aussi, malheureusement, beaucoup de gens de 68, une fois qu'ils ont acquis les postes de pouvoir, sont devenus aussi des autoritaires et des tyrans à leur manière, hein, et squattent les postes, etc., sont pas meilleurs que les autres. Donc, mais il y en a qui sont restés honnêtes, sincères et je crois qui continuent à lutter. Et je pense que c'est de cela dont je veux parler.
Ce livre, on sent une certaine nostalgie de ces époques-là, de fraternité, de vouloir
Oui, c'est pas vraiment une nostalgie parce que je crois que
vous avez toujours continué à lutter, de toute façon,
oui. Et à rencontrer des fraternités et des solidarités. Bon, ce qui est vrai, c'est qu'il y a plus cette dynamique qui reprend peut-être d'ailleurs avec la jeunesse aujourd'hui. Je trouve que les 20 ans, là, les, toute la jeunesse aujourd'hui qui remet en cause aussi ce système qui abandonne des études de commerce, etc., pour aller travailler à la terre ou devenir boulanger ou tout ça. Je trouve qu'il y a des choses intéressantes qui se passent aujourd'hui à travers cette jeunesse qui est confrontée quand même à quelque chose aussi de terrible, hein, ce qui est l'avenir de la planète, donc la crise climatique, les enjeux écologiques et tout ça. Je crois que c'est extrêmement anxiogène pour la jeunesse d'aujourd'hui. Mais en même temps, ils réagissent. Et je trouve qu'il y a... Je me retrouve bien dans certaines luttes qui, jusque-là, on n'avait pas l'impression que... Si on reprend, par exemple, la génération des 50 ans, très peu sont militants, très peu sont... Bon, peut-être parce que c'était nos enfants et qu'ils ont réagi à ce qu'on était, hein, c'est possible. Mais je trouve qu'en ce moment, je suis à la fois pessimiste parce que le monde va mal et qu'on ne voit pas trop de perspectives progressistes se dégager. Mais en même temps, il y a toute cette énergie nouvelle, et je trouve que ça, c'est positif. Donc, comme dans toute période, en fait, on peut s'appuyer sur ce qui est positif. Parce qu'en fait, si on reprend aussi ma génération, et 68, c'était une minorité qui bougeait, en fait. Hein. Bon, c'est, on a l'impression que c'était extraordinaire, mais parce que nous, on le vivait. Mais en fait, c'était pas une majorité qui vivait comme ça et qui remettait en cause les choses. Donc, je crois que la lutte, elle est permanente. On peut jamais se dire qu'il y a des acquis. Je crois que c'est surtout la conclusion.
Donc, ce livre, Chute la vie, Monique Etienne, aux éditions Véronne Éditions, vous allez le présenter
mardi prochain, là, le 6.
À la médiathèque François Mitterrand.
Oui, je présenterai les deux livres, d'ailleurs, Le journal d'Anna et Chute la vie.
C'est important d'échanger avec, avec le public.
Quand on écrit, on a vraiment envie d'avoir des retours. C'est très important, même des critiques, même si elles sont négatives, on peut, mais on a besoin de ce retour-là, parce qu'on n'écrit pas pour soi, autrement... Ce serait effectivement, encore une fois, très nombriliste. Et malheureusement, le livre Journal d'Anna, il est sorti en plein début du confinement. Donc, j'ai pas eu...
La possibilité d'en parler.
Voilà. Et donc, là, j'aimerais bien, effectivement, qu'on arrive à des dialogues et des échanges qui soient vivants et qui permettent d'échanger autour de ces livres.
Donc, le rendez-vous, c'est à la médiathèque, le 6, c'est-à-dire...
Eh bien, mardi.
Mardi, prochain, à quelle heure ?
À 18h.
À 18h, c'est ouvert à tous.
Bien sûr, c'est gratuit.
Donc, venez rencontrer Monique Etienne.
Et donc, la ruelle sera présente et avec des livres.
D'accord.
Voilà.
Donc, pour présenter Le journal d'Anna, ma mère, et Chute la vie. Et puis, est-ce qu'il y aura des suites ? Vous êtes déjà sur d'autres projets ou pas encore ?
Oui, oui, oui. Alors là, on travaille sur un projet avec mon compagnon, Christian, sur la guerre d'Algérie et les appelés de la guerre d'Algérie. Voilà, donc un roman. Et puis autrement, ben oui, j'ai des projets de continuer là plutôt quelque chose de carrément où je parlerai à la première personne sur cette investigation un petit peu, des combats que j'ai pu mener, etc. Parce que bon... Quand on vieillit, on a besoin de transmettre, peut-être.
Vos combats, donc, on peut rappeler aussi celui qui continue encore et toujours sur la, pour défendre la Palestine.
Tout à fait. Et là, donc, ce soir, ben, je vous invite... alors là, je change de casquette.
Ouais, ouais.
Mais à 18h, ce soir, à la médiathèque, toujours, on clôture donc la semaine contre l'apartheid qui avait été élaborée avec la médiathèque et la FPS par une conférence gesticulée de Monsieur Benziri, je crois, et qui s'intitule « Moi, juif, arabe et je ne sais plus le troisième terme », et qui sera donc une interrogation, effectivement, sur ce qu'est le sionisme, ce qu'est la lutte et le droit en Palestine, voilà. Mais qui apparemment est un très beau spectacle. Donc je vous invite à y venir à partir de 18h.
Médiathèque François Mitterrand, à Digne-les-Bains.
Voilà.
Monique Etienne, merci. Et puis,
merci à vous.
On se retrouve mardi 6 à partir de 18h aussi.
Oui, c'est ça. À la médiathèque, toujours.
Pour échanger autour de vos livres. Merci, bonne journée.
Et merci à
vous. À bientôt, au revoir.